Oui, bien sûr.
C'est bon.
C'est pas difficile, il n'y a pas de secret dans la pâte à crêpes. Il suffit tout simplement de mettre de bonnes choses pour qu'on fasse de bonnes crêpes. Alors il faut aussi rester sa poêle, du sein doux mélangé avec un jaune d'œuf.
Ça, c'est la vraie recette bretonne, hein.
Vous mettez de la bière dans votre pâte?
Ah non, mais pas de bière dans la pâte à crêpes.
Botticelli, avec un œuf et un peu de gruyère râpée, 45 francs. Mais mes enfants, c'est le coup de bambou. Hein. Bon, alors ce sera ou œuf, ou jambon, ou gruyère, mais pas les trois en même temps.
Hein? Michel-Ange avec des merguez.
Mais tu te fous de moi ou quoi?
Des crêpes à la conticure, c'est ça, l'originalité. Des crêpes à la fonticure, des crêpes, moi je mets du chocolat.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. À deux jours de la Chandeleur, pour oublier les malheurs de ce virus qui fait peur, il est l'heure de se mettre un peu de chaleur dans nos cœurs. Vous aimez? Non, pardon, ok, bon, trêve.
Des rimes.
Trêve de poésie pourrie, faites chauffer vos biliques et vos crêpières. Atelier crêpes aujourd'hui, de la préparation de la pâte jusqu'à la cuisson, en passant par le choix des ingrédients et les tours de main, on reprend tous les fondamentaux de la crêpe de froment avec une experte internationale du sujet. Oui, je suis tout à fait sérieux. C'est Catherine Merdi-Goisdoué. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les gourmandes et les gourmands de crêpes.
Merci de nous venir jusqu'à nous. Vous venez de Bretagne?
De Bretagne, du Finistère Nord, à Kerlouan.
C'est ça, et vous exercez le métier de formatrice en crêperie. J'ai du sérieux.
Tout à fait, j'ai ma petite école là-bas.
Depuis 35 ans, et vous signez Les Crêpes, l'art et la manière. Alors c'est carrément un ouvrage de référence. C'est devenu le support pédagogique de nombreuses formations en crêperie.
Oui.
Autant dire que nous avons avec nous une vraie spécialiste du sujet. Dans un instant, attention, des mots sur un vrai bilig qui chauffe, mais également une crêpière pour être dans une atmosphère un peu plus ménagère. Et puis on évoquera aussi un peu la galette de sarrasin. À mes côtés en ce dimanche, mes deux chroniqueurs, Canal Historique, Elvira Masson et Dominique Hutin. Salut les copains.
Hello.
Bonjour à tous.
Elvira.
Il va être question d'un livre,
oui,
de bon et de mauvais goût. Aussi.
Absolument, solution des jeux dans le courant de cette émission. Et Dominique?
Moi, ma chronique est beaucoup plus simple, elle tient en 5 lettres, alors ça pourrait être bulle, mais en fait c'est mieux que ça.
Oui, et c'est un alcool dont vous allez même...
Possiblement, oui.
Ouais, et dont vous allez même pouvoir révéler le pouvoir de garde.
Exactement.
Nos recettes immanquables de crêpes et de galettes, nos coups de cœur, les podcasts de nos émissions et de toutes nos chroniques sont à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Pour entamer cette émission, Elvira, vous avez une initiative solidaire à nous signaler.
Une initiative formidable qui émane du Reflet, un restaurant parisien situé dans le quartier du Marais. Un lieu extraordinaire au sens propre, car la majorité de son équipe en salle comme en cuisine est composée de personnes porteuses d'une trisomie 21. Ce restaurant a été fondé par Flore Lelièvre, d'abord à Nantes en 2016, puis elle a ouvert une deuxième adresse à Paris, alors qu'elle était encore étudiante en architecture d'intérieur. Inspirée par son frère trisomique et faisant face au constat que rares sont les entreprises « ordinaires » entre guillemets, à employer des personnes extraordinaires, elle a imaginé comme projet de fin d'études ce restaurant, dont le but est de créer de l'emploi pour des personnes en situation de handicap mental et créer ainsi la rencontre entre ces personnes que l'on voit trop peu dans le monde de l'entreprise et nous tous et toutes. Contribuer ainsi à changer le regard sur la différence. Alors à l'arrêt depuis plusieurs semaines, évidemment, le Reflet a repris du service là avant-hier sur les bases du volontariat de ses équipes pour proposer deux fois par semaine au déjeuner des menus destinés aux étudiants précaires au prix de, devinez,
1 euro.
Exactement, bien vu Dominique.
J'aime
1
bien
euro,
les chiffres ronds, moi.
C'est ça, 1 euro le déjeuner, 40 couverts à emporter donc par service, des produits frais venus exclusivement de dons qui sont faits par l'Association des cuisiniers de la République, par des fournisseurs privés comme le potager de Marianne. Tout fonctionne absolument sur cette base de dons. Vendredi, pour lancer les festivités, le menu c'était soupe de potimarron, poulet rôti, pommes au four et salade, ou patates douces rôties, boulgour façon pilaf, tomates, salade. Pour le dessert, des choux à la crème pour 1 euro.
Voilà.
Entrée, plat, dessert. C'est
incroyable.
C'est pas un moins 10 ans, c'est un vrai menu préparé par une équipe en cuisine.
Alors c'est d'autant moins un moins 10 ans que même lorsque ça va réouvrir, même graphiquement, il y a une identité vraie qui est posée, qui a été réfléchie, comme un vrai resto au final.
Et puis le symbole de menu à très bas prix, préparé par
ces personnes qui ne travaillent habituellement pas dans la restauration, à qui on ne donne pas tellement leur chance, et qui cuisinent vraiment très bien et très généreusement, qui s'engagent auprès d'une population dont on connaît la souffrance en ce moment, les étudiants précaires.
Absolument.
Je trouve ça absolument épatant comme initiative.
Vous nous rappelez où se déroule cette initiative ?
C'est le Reflet rue de Braque à Paris. Et le site internet, c'est paris.restaurantlereflet.fr.
En espérant que cette idée
perdure
et donne des idées aussi partout en France.
Ouais.
Juste avant de se réchauffer avec des crêpes grillées sur le bilig, moi je vous ai apporté sur le plateau une petite surprise givrée. Vous avez un petit gobelet en carton qui renferme une glace mystère. À vous d'y plonger la cuillère et de me dire si vous avez une petite idée de cette sensation.
Bon, déjà, c'est bon.
C'est quand bravo, même... alors Elvira.
C'est un peu court, jeune femme.
Vu vos capacités de dégustation, j'attends de vous plus de précision.
C'est une crème glacée, couleur crème, justement, avec des petits points noirs qui indiquent qu'il y a de la vanille, a priori. Et puis, il y a une saveur assez marquée. Bon, c'est très, très rond en bouche. Il y a une saveur assez marquée d'agrumes. Alors, j'ai un peu de mal à identifier l'agrume. Je ne sais pas, ça pourrait être de l'orange. Pas du citron.
Il y a une parenté.
Clémentine ?
Bravo. Et ce parfum s'appelle Clémentine Creamsicle. Notre couple, en fait, vous allez savoir de qui il s'agit, partage des origines américaines. Il a imaginé cette réinterprétation d'une sucrerie bien connue des enfants américains. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des popsicles. Vous savez, ces glaces à l'eau, au parfum fruité et acidulé.
Mais c'est les popsicles.
Eh bien là, c'est un peu une réinterprétation, légèrement crémée. Il y a donc de la crème et de la clémentine avec de la vanille.
Légèrement crémé, bien crémé. Hein.
Oui, bien crémé, ça vous plaît.
Délicieux, c'est un délice.
Catherine.
Je me régale. Il y a un petit croquant là, sous la dent qui est très sympa. Un petit pralin, noisette, amande, il y a un petit coup de caramel aussi qui ressort.
Alors on n'est ni dans la noisette ni dans l'amande, mais pas très loin.
D'accord.
On est dans une noix.
Noix de cajou,
plutôt américaine.
Pécan.
Bravo.
Pécan.
Noix de pécan, sirop d'érable.
Ah,
et ça, c'est un autre souvenir d'hiver aux États-Unis.
Sur une crème glacée, là, très gourmande, ouais.
C'est ça. Puisque, je vais vous dire de qui il s'agit en réalité, puisque c'est un couple franco-américain de chefs parisiens, Jess Young et Robert Compagnon, à la tête du restaurant étoilé Rigmarole, Paris 11e.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Ils ont décidé, ils ont même réussi à ouvrir en début d'année, en annexe de leur restaurant, Folderol, un glacier qui fait aussi caviste et il propose des glaces très artisanal, ainsi que du vin à emporter. Et effectivement, les noix de pécan proviennent, figurez-vous, des arbres du grand-oncle et de la grande-tante de Robert dans l'Arizona, avec un sirop d'érable canadien. Dominique ?
Non, moi, c'est très homogène, c'est très crémeux, c'est très enveloppant, et je trouve qu'il y a même une approche un peu animale, presque fromagère, au final. Quelque chose de cet ordre-là, mais je le redis, enveloppant, très doux, très caressant.
Alors, il y a de la crème, mais il y a aussi de l'huile d'olive.
Ouf.
Huile d'olive de Toscane. Et en ce qui me concerne, j'ai orange sanguine et jasmin. Comme quoi, les glaces, même en plein hiver, réchauffent les cœurs. De très bonnes glaces artisanales à emporter. Les glaces de chez Folderol, c'est 10 rue du Grand Prieuré, Paris 11e. Derrière la console, Laurent Thomas, Benjamin Vignal, Nadia Chougui, Djoubaka a choisi, attention, les sensations fortes d'un super titre qui va faire bouger vos corps devant vos crêpières. The Valley of the Pagans, Gorillaz avec le chanteur Beck. On va déguster et on va danser. Et puis juste après, c'est parti pour une crêpe party.
Welcome to the land of the permanent sun, where the flowers are melted and the future is fun. The freeway lizards are my feeling so good, on a one-way trip back to West Hollywood. Let's go. Flying.
gourmand ou sarrasin, à la poêle ou obélique, moelleuse ou croustillante, on fait des crêpes sans se crêper le chignon sur France Inter.
Quand j'étais petite, je trépignais d'impatience à l'annonce d'une visite chez Mémé Pauline. Quelle joie d'enfiler mes bottes pour aller dans l'étable caresser les vaches et leur tirer un peu de lait pour faire la pâte. Assise sur mon petit banc près de la cheminée, j'admirais le spectacle. La pâte, déversée d'un seul coup d'une petite écuelle en aluminium, se voyait étirée par ce petit râteau de bois édenté pour dessiner un cercle à éblouir un professeur de géométrie. Le crépitement du feu faisait écho à celui de la pâte. Le roselle alors révélait ses bulles en une dentelle pas encore assez cuite. De sa longue spatule en bois, elle venait chatouiller les bords dorés jusqu'à ce que la crêpe lui annonce le signal pour la pirouette. Déjà, tout pétillait sur ma langue. Quelques soudaines sécrétions buccales annonçaient à mon cerveau qu'il serait sous peu pénétré d'une ivresse nouvelle.
Ah là là, on a l'eau à la bouche. Merci beaucoup Catherine Merdi-Gouazdoué. Vous étiez en train de lire un extrait de votre ouvrage « Les crêpes, l'art et la manière » que vous avez publié, je crois, à Compte d'auteur.
Tout à fait.
Et qui est certainement le livre le plus complet sur le sujet. Vous êtes tombée alors dans la pâte quand vous étiez petite.
C'est un peu ça.
Et votre vocation professionnelle s'est déclarée quand ?
Ma vocation professionnelle s'est déclarée quand j'étais toujours à l'école, en seconde, puisque ma sœur Brigitte a monté une crêperie, bar, cabaret, concert, très renommée à l'époque, dans le Finistère Nord. Mmh. Et donc, les week-ends et l'été, j'allais faire les crêpes à la crêperie.
C'est ça.
Ça a démarré là.
Et la suite de l'histoire, c'est une grande aventure professionnelle ?
Une immense aventure.
Qui vous a emmené partout dans le monde ?
Absolument, absolument. Des salons professionnels pour parler de la crêpe, un petit peu autour de la France. Beaucoup d'accompagnement de crêperies, en fait. Mm-hmm. J'accompagne les gens à monter leur crêperie partout, un peu partout. Donc j'ai voyagé.
Vous avez même une école.
Et j'ai une école. Au bout du monde, dans le Finistère, un petit laboratoire
qui s'appelle
J'apprends la crêpe.
C'est ça. Alors, dans un instant, on va faire un peu de sémantique. On va distinguer notamment la crêpe de la galette, mais juste avant, saluons évidemment l'approche de la Chandeleur, ça va se célébrer mardi 2 février. Ouais. Pourquoi fait-on sauter des crêpes à la Chandeleur,
d'où
ça vient ?
Alors, tout d'abord, ça rappelle la forme ronde, leur couleur symbolise le disque solaire. Donc le retour de la lumière après l'hiver. Et donc on faisait les crêpes avec le reste de l'excédent de farine en fait qui restait. Mm-hmm. Voilà, en Bretagne en fait on tournait la crêpe avec souvent une pièce de monnaie dans la main.
Oui, c'est ça.
Pour avoir prospérité toute l'année. Les jeunes femmes qui venaient de se marier dans l'année trempaient leur alliance dans la pâte. Uh-huh. On faisait donc la première crêpe, on la mettait sur l'armoire, uh-huh, et on la laissait là à sécher toute l'année pour que le foyer soit protégé.
Et rappelons quand même que, évidemment, la Chandeleur, c'est à la base, bien sûr, une fête pour les catholiques. Hein.
Oui.
40 jours après Noël, on organisait des processions aux chandelles, d'où Chandeleur, pour célébrer la présentation de Jésus au temple. Ensuite, c'est devenu évidemment une fête païenne pendant laquelle, effectivement, on fait sauter des crêpes. Mais alors, le fait de faire sauter des crêpes, il y a une raison symbolique, la pièce de monnaie, etc. Mais il n'y a pas de raison culinaire, finalement.
Non, il n'y a pas vraiment une raison culinaire. Enfin, c'est assez folklorique, on va dire. L'important, c'est de cuire du deuxième côté. Donc, il faut la retourner. Normalement, elle décolle bien. Si on a préparé une bonne pâte, puis on a bien graissé la poêle. Voilà, c'est rigolo de la faire sauter. J'ai une petite anecdote à rapport à ça, parce que j'avais un vieil oncle qui n'avait plus de cheveux. Puis, on m'a fait croire, quelques années, qu'il y avait une crêpe qui lui était tombée sur la... C'est pour ça qu'il avait perdu ses cheveux.
Et vous y avez toujours cru, évidemment.
Bah oui.
Un peu de sémantique, justement, on y vient, on a tendance à confondre la crêpe, la galette. On va dire que le vocabulaire d'une crêperie, et on sait à quel point il y en a un peu partout en France, pas seulement en Bretagne, bien entendu, dans ces établissements, la galette, c'est salé et c'est avec du sarrasin. Mmh. La crêpe, c'est sucré, c'est le dessert, et c'est avec de la farine de froment. Mais en Bretagne, crêpe-galette, c'est un peu plus compliqué.
C'est plus compliqué, c'est un peu la guéguerre depuis la nuit des temps, comme on dit. Mais bon, en fait, dans le Finistère, vraiment,
oui,
dans le Finistère.
Là où vous habitez.
Voilà, Finistère Nord, Finistère Sud, on dit crêpe. Mmh. Pour le blé noir, comme pour le froment. Parce qu'elles sont fines.
Ah.
La galette est un produit plus épais. À l'origine, galette, le mot vient donc du mot galet. Crêpe cruspus, crêpe de Chine, très fin. Donc on a une cuisson différente, un étalement différent, mais aussi des recettes de pâtes différentes qui amènent à avoir un produit plus épais qu'un autre. Mm-hmm. Maintenant, c'est vrai, hors Finistère et dans le monde entier, on dit crêpe pour le sucré, galette pour le salé. Dans les crêperies, c'est un peu plus simple.
C'est ça. Voilà. Donc, nous, on fera la distinction crêpe ou galette, Dominique.
Mais juste simplement, cette galette supposément plus épaisse, est-ce qu'elle est supposée aussi plus rustique dans la manière d'être pensée, d'être consommée?
Alors, la galette, originaire, on va dire, de Rennes, il est vilaine, voilà, est une recette qui est faite juste avec de la farine, du gros sel et de l'eau. Donc, effectivement, peut-être plus rustique.
On va commencer avec les crêpes de froment, si vous le voulez bien. Catherine, vous écrivez dans votre livre, il y a autant de recettes que de clochers en Bretagne. Alors ça va pas trop nous aider, parce que nous, on veut la recette inratable, ouais. La recette parfaite pour une crêpe idéale. Avant même la cuisson qui va se dérouler dans ce studio, on voudrait effectivement la recette de la pâte à crêpe. Il y a quand même quatre ingrédients.
Indissociables. Pour une crêpe bretonne, pas enfin, pour une crêpe française.
Alors, la différence?
C'est le sucre. C'est le sucre. En fait, une crêpe française qu'on apprend en CAP cuisine, c'est une crêpe de pâte neutre, en fait, de la farine, des œufs, du lait, de l'eau, un peu de sel, mais pas de sucre.
D'accord.
Qui peut aussi bien s'orienter pour faire une crêpe Suzette qu'une ficelle picarde, par exemple. La crêpe bretonne, elle aura toujours du sucre. Et vraiment du sucre.
Même dans le Finistère.
Ah oui.
Quitte à en rajouter encore un peu par-dessus.
Peut-être encore plus dans le Finistère Sud, puisqu'on a au minimum 500 grammes de sucre au kilo de farine, voire un peu plus, ce qui nous amène à une caramélisation à la cuisson,
ouais.
Sur un bilic très chaud. Donc, le petit côté crasse, croustillant de la crêpe dentelle.
C'est bien qu'il y a des champs de canne à sucre dans le Finistère Sud, c'est connu.
C'est ça. Et pour autant, on ne la mange pas sèche, entre guillemets. On la garnit quand même, cette crêpe de froment sucré de Bretagne.
Oui, bien sûr, on la garnit.
Donc sucre plus sucre.
Oui.
Ça ne va pas trop effrayer nos auditeurs, non ça?
Avec du beurre aussi, bien sûr. En Bretagne, c'est la beurre-sucre. Quand on a des clients qui nous demandent une crêpe au sucre, c'est pas un breton.
Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Non, je plaisante.
Ouais.
Dites-moi. Vous nous avez fait, en amont de cette émission, histoire de gagner un peu de temps, cette fameuse pâte à crêpes. Mais on l'a filmée, le tuto sera en ligne sur le site internet dont on va déguster sur franceinter.fr. Quelques minutes suffisent en fait à faire une très belle pâte à crêpes. Allez, il est temps de nous révéler la recette. Vous nous avez dit de la farine, du sucre, des œufs et...
Et du lait. Un peu de sel.
Un peu de sel aussi, ça fait un cinquième ingrédient.
Voilà, mais si on l'a pas, on peut faire des crêpes.
C'est ça. Comment on s'y prend?
Il y a un ordre. Ça, c'est important.
C'est ça qui est important.
C'est important. Bon, quand on apprend à la maison, à la ménagère, on met la farine, on fait le petit puits, on casse les œufs, on met le sucre, on met tout ça dedans, puis on mélange.
Et c'est pas bien ça?
Non, c'est pas bien. Faut arrêter de faire ça. Voilà. À partir d'aujourd'hui, vous arrêtez.
Mais quand on vous disait qu'on allait vraiment vous réviser les fondamentaux de la crêpe.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait une pâte à crêpe? Souvent, on a des grumeaux. Alors, on prend la passoire, ou le chinois, on passe au chinois, ou on donne un coup de mixeur dedans. Non, on oublie ça, on n'arrête pas.
Le mixeur plongeant, c'est interdit?
Ah oui, interdit, absolument. Donc, on va commencer par les œufs. On va casser les œufs.
On veut les quantités, s'il vous plaît.
Oui, d'accord. Alors, les quantités, on va partir sur 500 grammes de farine.
D'accord.
500 grammes de farine, 4 œufs, 200 grammes de sucre et 1 litre de lait.
C'est ça.
Ça, c'est pour combien de...
2 pincées de sel. Le nombre de crêpes, on aura 25 crêpes. Quand on les fera à la crêpière, à la poêle, à la maison.
En Bretagne, c'est pour deux personnes, quoi.
Voilà. Après, quand on est à l'obélix, c'est un petit peu plus fin.
Les blagues anti-bretons commencent. Donc, on bat nos œufs d'abord avec un fouet.
Voilà. Je bats les œufs.
La température des ingrédients n'a aucune importance. C'est pas des œufs froids ou à température.
Idéalement, c'est toujours bien. Il y aura pas beaucoup d'incidence. Mais si on peut sortir un petit peu avant, voilà. C'est toujours mieux. Donc, les œufs sont battus. Je mets un peu de lait dedans pour les détendre légèrement. Et ensuite, mon sucre et mon sel, que j'émulsionne encore. Là, je fouette. J'émulsionne bien. Je vais rajouter, en fait, dans ma base d'omelette sucrée, 25 centilitres de mon litre de lait. D'accord?
D'accord, à température ambiante.
Voilà. Donc, j'ai ma base liquide sur laquelle je vais mettre toute ma farine en une seule fois. Pas petit à petit, sinon j'aurai trop de liquide par rapport à la farine, et là la farine va se noyer.
On la passe pas au tamis?
Ah non.
Pas de risque de grumeaux.
Si on utilise une bonne farine, on n'a pas besoin de la passer au tamis du tout. Donc en farine, quand même, petit mot là-dessus, parce que bon, généralement, on utilise la farine ménagère type 55. Le mieux, c'est de l'acheter la plus fraîche possible dans les supermarchés. Parfois, bon, elles ont été stockées avant, tout ça, on ne sait pas. Donc bon, si on a un moulin pas loin de chez soi ou une boulangerie qui revend parfois la farine du moulin avec laquelle ils travaillent, on fait de la bonne crêpe avec de la type 55. Moi, aujourd'hui, j'utilise la type 80. Ça fait des années que j'utilise la type 80. La type 65 aussi, parce qu'on aura beaucoup plus de matière minérale dedans. Donc ça, quand même, on approche d'une crêpe pâtissière, quoi. Ça va vraiment...
Sachant que type 80, pour ceux qui n'ont pas vraiment des idées précises en matière de type de farine, il s'agit d'une farine moins raffinée, avec par conséquent plus de matière, plus de nutriments aussi.
Oui, tout à
fait. Elle est d'ailleurs légèrement plus grise ou beige ou brune.
Oui, elle est crème, en fait. Elle est un petit peu plus jaune.
Donc là, la T80, idéalement,
ouais.
Ce peut être de la T65
T65 aussi, très bien.
Entre 50 et 80.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc si on a bien suivi nos 500 grammes de farine T80 d'un coup,
voilà,
dans le saladier.
Et à ce moment-là, avec le fouet, je vais l'utiliser comme si j'utilisais une spatule, en fait, hein, une Maryse, là, et je vais intégrer un peu ma farine tranquillement, sans fouetter, sans travailler, sans être agressif du tout. Au contraire, je pourrais même le travailler, la faire à la main. Dans le temps, nos grands-mères le faisaient à la main, hein, aussi bien le blé noir que le froment. Donc voilà, et puis quand je vois plus de farine, là j'arrête, je continue pas. Je cherche pas à lisser, à faire une belle pâte en ruinant, je ne travaille pas, parce que plus je vais travailler cette base-là, qu'on appelle un pâton, plus je vais la chauffer, plus je vais faire augmenter en fait une certaine élasticité qui va se retrouver dans les crêpes après.
On ne veut pas des crêpes en caoutchouc, c'est ça? Alors attendez, et le lait dans tout ça? Parce que vous en aviez mis un peu au départ pour détendre vos œufs, si j'ai bien suivi, mais il en reste presque un litre.
Oui, il reste 75 centilitres. Alors, idéalement, c'est quand même bien de faire reposer la pâte. Il y a des avantages à faire reposer une pâte à crêpes.
C'est pas un plaisir de l'instant?
Non.
Ça peut le devenir.
Alors oui, nous professionnels, on fait des pâtes de la veille pour le lendemain.
Oui, mais vous nous avez fait une très belle pâte à crêpes avec laquelle vous allez nous faire des crêpes, justement sans repos. Il y a une petite astuce.
Alors l'astuce, c'est de tiédir le reste du lait. Voilà. On met le bout du petit doigt dedans, hein, c'est le plus sensible. Une petite 18-20 degrés, voilà, ça brûle pas.
Donc quand on sent que c'est un peu tiède chaud, mais pas trop chaud surtout.
Non, surtout pas trop chaud.
On verse le lait.
Oui.
Et là, il se passe quoi? La température du lait va avoir un effet sur la farine.
Oui, ça va la faire justement se développer plus rapidement, activer la fermentation en fait. Elle s'épaissit un peu et puis du coup, on a un meilleur produit dans la digestibilité, dans l'étalement du produit, dans la couleur. La crêpe révèle vraiment
On va découvrir ça dans un instant. Je vous propose, Catherine, de faire chauffer à la fois le bilic, mais également la crêpière.
On y va.
Le temps de la chronique de Dominique Hutin, vous allez vous mettre carrément au fourneau, debout. Et on va goûter en direct de fabuleuses crêpes.
On va déguster sur France Inter.
Dominique, vous annonciez en ce début d'émission une énigme en 5 lettres, si j'ai bien suivi, et ce n'était pas Bulle ?
Non.
Pourtant, on a entendu un pop qui vous ressemble.
Oui, un bruit de bouchon. Non, mes 5 lettres à moi, c'est consonne, voyelle, consonne, consonne, voyelle, C-I-D-R-E.
Il s'est trompé d'émission, Dominique Putain.
Et voilà, ça fait cidre. Et cidre d'aujourd'hui, figurez-vous, il est normand. Incroyable.
Au hasard.
D'ailleurs, à propos de crêpes, j'ai vu ça sur un site internet breton. Vous avez vu la forme de la crêpe? Il paraît que c'est la preuve illustrée que la Terre est plate. Je l'ai vu sur un site internet breton. Bon, plus scientifiquement, pourquoi un cidre normand aujourd'hui? Vous l'avez compris, la planète cidre est traversée par une effervescence. On le voit un petit peu partout dans les campagnes, dans les villes, dans les bars, chez les cavistes, etc. Il se passe quelque chose et ce phénomène est illustré par deux nouveautés que je suis allé piocher justement en Normandie. Alors la première, c'est dans le département de l'Orne. C'est une toute nouvelle appellation d'origine contrôlée qui a été consacrée en 2020. Elle est toute fraîche. Elle s'appelle le cidre du Perche. Alors évidemment, cet événement-là, avec le Covid oblige, j'avais peut-être pas eu l'éclairage qu'il méritait. Donc je vous en reparlerai une prochaine fois pour développer un petit peu les vertus de ce cidre-là. Et puis, toujours en Normandie, il y a une petite révolution. Chez les producteurs, ça se passe dans le Cotentin.
Absolument. Et Dominique, vous nous apportez sur un plateau justement l'extrait d'un reportage qui sera diffusé dans le 19-20 de France 3 Normandie le 5 février prochain, où l'on entend le producteur de cidre Damien Lemasson, installé dans le Cotentin, vous le connaissez bien, c'est à côté de chez vous. Il nous raconte ce nouvel engouement pour les cidres vieillis en cave.
On lui a jamais donné la chance sur la durée parce qu'il y avait l'obligation d'utiliser le même tonneau tous les ans, donc il fallait absolument le vider. On utilisait les mêmes bouteilles qu'on vidait, et on consommait effectivement toujours le cidre de l'année. On ne le laissait pas le temps de vieillir. On va pas dénigrer non plus ce qui existe actuellement et ce qui est très agréable à boire, parce que sur un jeune cidre, on va avoir de la fraîcheur, on va avoir du fruité, du floral. Mais certaines cuvées méritent justement d'être gardées. Et c'est tellement agréable sur un moment privilégié de pouvoir ouvrir une de ces bouteilles-là que franchement, ça en valait la chandelle. Il y a des belles perspectives autour de ça.
Non mais attendez, vous êtes en train de nous dire que le cidre pourrait devenir un véritable alcool, une boisson de garde ?
Oui, alors sauf que vous l'avez entendu par la voix de Damien Lemasson, qui est donc producteur de cidre, il n'y a pas de culture de garde chez les producteurs.
C'est vrai.
Donc moi, je vous ai apporté quelque chose qui raconte un peu l'antithèse de cet enfermement. Ce sont des cidres de garde. Alors là, on a des choses, par exemple, qui circulent. Vous avez un Damien Lemasson, qui est le producteur qu'on vient d'entendre, un 2009.
Ouais.
Et puis Marie-Agnès Héroux, avec un 2001. Donc un cidre qui a exactement 20 ans. Alors vous le savez, tous les vins n'ont pas vocation à se garder. Et bien c'est strictement la même chose dans l'univers du cidre. Alors une des raisons, c'est que l'écrasante majorité des cidres en France sont artificiellement gazéifiés. Mmh. Alors d'ailleurs, lorsque vous achetez chez un producteur ou chez votre caviste, n'hésitez pas à l'interroger. Y a-t-il du gaz, du CO2 qui aurait été artificiellement ajouté ? Le cidre du Cotentin dont on parle aujourd'hui, lui, il se conserve. Il se conserve pour trois raisons. La première, c'est qu'il s'appuie sur une prise de mousse naturelle, une fermentation qui va commencer dans la cuve et puis qui va se finir en bouteille. Et c'est là seulement que vont naître les bulles, dans la bouteille. L'autre raison, ben vous le connaissez en fait, ce phénomène qui est un phénomène naturel qui s'appelle l'autolyse des levures. C'est le même principe que celui du champagne. C'est une bonification dans l'intimité de la bouteille où, en contact prolongé du cidre avec ses levures, il va s'enrichir, il va s'anoblir. Alors, il y a une petite différence quand même avec le champagne, si on veut être complet. Le champagne, lorsque vous l'achetez, vous voyez qu'il est limpide, il n'y a plus de levure. On l'aura simplement dégorgé pour évacuer ses dépôts. Sur le cidre, vous avez toujours un petit voile. C'est le marqueur qu'effectivement, il y a une prise de mousse naturelle et donc des levures qui sont restées. Et puis la troisième raison, c'est que le cidre Cotentin est appuyé sur une majorité de pommes phénoliques, qui sont des pommes tanniques. C'est elles donc qui vont donner cette structure qui va permettre d'affronter un peu les affres de l'âge, qui va lui permettre d'entrer en vieillissement, qui va l'anoblir avec des tanins plus ronds, plus d'ampleur en bouche, plus de complexité aromatique. Je vous laisse goûter.
C'est étonnant. C'est étonnant. Alors après, on peut raisonnablement dire que la bulle s'est légèrement affaiblie, qu'on est plus sur une sensation un peu perlante, mais en l'occurrence, on sent qu'il y a un polissage du temps.
Exactement. Alors le problème, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de culture de garde chez les producteurs, mais c'est aussi le cas chez les consommateurs, qui souvent, dans la même semaine, vont acheter le cidre et le consommer dans l'instant, spécialement si vous habitez en ville, auquel cas les gens sont très rarement équipés de caves. Donc pour protéger le cidre d'une consommation très précoce, et c'est là l'initiative, les producteurs du cidre Cotentin ont lancé une opération inédite qui s'appelle « vieillissement prolongé » pour vous permettre d'apprécier des cidres matures comme on peut le faire ici. Le principe est extrêmement simple. Vous allez sur leur site, ils ont créé un site commun, vous allez réserver vos cidres, les producteurs vont les sortir du circuit commercial.
Mais une fois embouteillé.
Une fois embouteillé. Là, il est en gestation. Ce sera pour le millésime 2020. Il est en train de mûrir dans les cuves et dans les bouteilles pour l'instant. Ils vont les identifier avec un logo et les faire entrer en période de maturation dans le silence de leur cave pendant 2 ans avant de vous le livrer pour dégustation. Et c'est là qu'arrivent les problèmes. Pourquoi ? Parce que, on le sait, en termes de rituel, qu'est-ce qui se passe souvent ? On va avoir recours, et je me tourne vers la Bretonne qui est à mes côtés, on va avoir recours à une bolée. Et c'est ça vraiment le point délicat. Et voilà. Alors si vous habitez dans une ferme pendant la première moitié du XXe siècle, la bolée, ça peut s'entendre. Ou la moque, c'est qu'on donne un petit peu dans la manche. Ce récipient fait partie de votre vaisselle domestique. Là, je n'ai pas de problème. Mais aujourd'hui, on a des cidres de dégustation, bon sang. On a des cidres qui sont vraiment des cidres de longue garde, comme pour le vin. La bolée n'a pas de sens. Elle déshabille le goût du cidre. C'est absolument insensé.
On va demander son avis à Catherine, notre invitée bretonne.
Je suis absolument d'accord avec ça.
Donc, le cidre dans un verre à vin.
Ah oui, dans un verre à vin.
Et c'est pourtant le rituel qu'on constate dans les crêperies, à Folklore, à Froufrou, etc.
Surtout en Bretagne, c'est ça que vous voulez dire, Dominique?
Bah, je préfère que ce soit vous qui le disiez quand même.
Désormais, le cidre est donc une boisson de garde. Est-ce qu'il y a une forte valeur ajoutée à l'idée de mobiliser évidemment la bouteille pendant des années, fatalement pour le consommateur en termes de prix?
Alors, en termes de prix, on reste sur des prix cidricoles. Ça va s'échelonner entre 6 et 12 euros. Mmh. Bien sûr, pour les professionnels, c'est beaucoup moins cher. Et l'intelligence qu'ont eu les producteurs, et c'est là encore une création tout à fait intéressante, ils ont permis de mutualiser. Vous allez pouvoir panacher leur cidre, en prendre 3 chez machin, 4 chez bidule. Mmh. Ça veut dire un bon de commande unique, un règlement unique, une livraison unique. Et ça, c'est vraiment un geste collectif. Et ils ont intégré le port. Donc au final, ça va vous revenir entre 7 et 12 euros de mémoire. Et alors pour finir, ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que jusqu'alors, le cidre était voilà, une espèce d'aimable boison, un peu tradi, avec un capital sympathie. Si vous voulez, il avait autant de charisme que le vieux copain de lycée qu'on va avoir une fois par an de manière un petit peu obligée. Dans l'univers du cidre, ce rendez-vous obligé, on le connaît. Hein, c'est la chandeleur, c'est la galette des rois, etc. Et puis, évidemment, l'image sociale était totalement désastreuse. Eh bien, aujourd'hui, c'est devenu un objet social formidable, urbain, qui est débarrassé de ses complexes et porteur de considérations environnementales qui sont vertueuses. Du coup, nouveau et intemporel, c'est autant le paradoxe du cidre que le pari qu'il a gagné.
Très bien, merci beaucoup. On ne l'arrêterait plus quand il parle cidre, notre ami Dominique Hutin. On a bien compris que c'est là aussi un grand spécialiste du cidre. Le cidre comme boisson de garde, quelle impression ça vous fait, ce cidre bouché de 2001 de la maison Héroux?
Je viens de le goûter. Alors déjà, il a une superbe couleur et saveur. Hein. C'est vrai qu'il pétille pas comme un cidre qu'on débouche régulièrement.
Il est peut-être a priori moins flatteur, mais il gagne en complexité.
Mais il reste en bouche. Enfin, c'est une autre dégustation. Enfin, vraiment, je suis très contente de découvrir ça parce que je pensais pas que justement, moi, j'avais toujours en tête que. Ben non, le cidre, ça vieillit pas, quoi.
Très belle expérience. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce que vous validez cet accord entre les crêpes de froment sucré ou les galettes de sarrasin avec le cidre?
Oui, 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 ça va bien. Mais le vin va très bien aussi.
Le vin va très bien aussi.
Le vin va très bien.
Question cidre?
Oui, à ce propos, on a pas mal de questions d'auditeurs et d'auditrices sur ce qu'on a le droit de mettre dans la pâte à crêpes. Parce qu'on a dit évidemment un petit peu de lait chaud pour accélérer le processus. Qu'est-ce qu'on pense de ceux qui mettent de la bière, voire du cidre dans la pâte?
Très bonne question.
Le cidre, c'est de la levure, donc obligatoirement, ça va apporter une saveur, mais ça va aussi apporter les levures qui vont nous donner des crêpes plus légères. Par contre, ça limite pas le temps de repos, et c'est une pâte qu'il ne faut pas laisser non plus des heures à température ambiante.
Hein.
La levure va un peu faire virer la pâte assez vite.
Et qu'est-ce que vous conseillez comme proportion pour compléter la question d'Elvia? Si on remplace une partie du liquide, en l'occurrence le lait, par du cidre, par exemple, ce serait quelle proportion?
Un cinquième, je dirais,
d'accord,
du liquide. Il ne faut pas en mettre de trop, parce que ça prononce vraiment au niveau de la saveur. Hein.
Parfait. Ouais. On va avoir droit à 2 démonstrations culinaires. La première, c'est avec un...
Bilic.
Hein?
Un bilic.
Hein?
Un bilic, mon gars.
Bilic. Racontez-nous pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est.
Le matériel, en fait, qui n'a pas de rebord. Hein, c'est une plaque en fonte, normalement. Maintenant, on fait des bilics crampouses qui sont légers, comme un appareil à raclette, là, très facile à transporter et qui ont une bonne chauffe. Donc, on fait des super crêpes avec ces appareils-là. Donc, j'en ai apporté un aussi. Hein,
très bien, portatif. Et on est très content de citer la marque Crampouse, du Made in France, qui fait pour le monde entier, ces plaques chauffantes, ces biliques qui servent à cuire un peu partout dans le monde des crêpes.
Vraiment les meilleurs dans le matériel, pour le particulier comme pour le professionnel.
Absolument, et vous allez nous en faire une démonstration.
Tout à fait.
Je vous invite à rejoindre le bilic. On est toujours un peu intimidé quand on voit les professionnels manier une espèce de râteau qu'on appelle...
Le rosel.
Il s'agit d'une petite raclette en bois.
Voilà.
Qu'est-ce que vous avez mis qui grésille sur la plaque chauffante?
Quelques gouttelettes d'eau pour contrôler la température. Donc là, je vois la gouttelette avant l'ébullition, donc le bilic est pas assez chaud. Pour une bonne crêpe, il faut qu'elle soit vraiment saisie.
Quelle matière grasse vous allez utiliser?
Chez nous, en Bretagne, on aime bien le lardiguel. Alors, le lardiguel, c'est du saindoux mélangé avec un jaune d'œuf.
Waouh!
Donc ça, c'est pour les bilics en fonte. Mm-hmm. Sinon, on utilise de l'huile.
De l'huile?
Voilà.
En aucun cas du beurre?
Ah non, en aucun cas du beurre. Le beurre est la matière grasse qui a son point de fumée le plus bas. Mmh. Donc comme on travaille quand même à 200-250 degrés,
on exclut totalement le beurre.
On ne brûle pas du beurre, on ne cuit pas les crêpes dans le beurre.
Et quand vous parlez d'huile, c'est quelle huile végétale de préférence?
Oh, on utilise colza, tournesol, c'est bien.
Huile de pépin de raisin?
Huile de pépin de raisin également, c'est
très bien.
Ça fume.
Ah, donc
on y est. Ça boue. La petite gouttelette d'eau.
Là, qu'est-ce que vous faites?
Alors, là, je passe le graisseur, en fait. Hein. Alors là, je vais passer mon roselle avec un petit peu d'eau.
Pourquoi?
Dessus. Je viens de graisser, mais pour dégraisser. Légèrement.
Ah, c'est technique, en fait.
Légèrement. Alors, c'est la première. On dit toujours que la première, c'est pour le chien. Et j'essaye quand même. La louche de pâte, je vais la positionner. On va s'imaginer la plaque et on va s'imaginer une horloge. 10 heures. Mm-hmm. Il est 10 heures à la bonne heure. Je démarre, je positionne ma pâte entre les deux aiguilles.
Quelle quantité?
Une louche, 9 centilitres de pâte. Donc, je positionne ma pâte avec ma main gauche,
oui.
La louche dans la main gauche, le roselle dans la main droite. Et le roselle sera en amont de la pâte qui va se déverser.
Donc, de façon à 9h en l'occurrence.
Voilà, à 9h.
Très bien.
Et je vais donc prendre toute cette pâte, la diriger en fait en ayant un mouvement circulaire.
Oui.
Comme si j'avais vraiment un crayon en main.
Mm-hmm.
Et qu'avec ce crayon, je fais un C.
Waouh.
Je remonte et je refais un C.
Comme si dans...
Je remonte et je refais un C. Et je vais continuer.
Un C à l'envers.
Je fais, faut toujours que je fasse la marche arrière avant de continuer à avancer.
Entre nous, Catherine, à la maison, combien faut-il faire de crêpes pour enfin réussir à faire une bonne crêpe avec un roselle?
Alors, je pense qu'on peut faire une centaine de crêpes.
Avant de réussir.
C'est un peu intimidant quand même. Moi, je m'y lancerai pas tout de suite là.
Quand on essaye par soi-même comme ça, c'est vrai que c'est pas si simple.
Il faut 100 chiens.
C'est ça.
C'est très technique. Après, les petits pouloutes, ça se mange bien aussi, hein. Même si les crêpes sont ratées avec un peu de beurre.
Sachant que, amis auditeurs, on a fait pour vous évidemment un tuto à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster, où justement vous nous expliquez cette espèce de chorégraphie avec le roselle. Pour précisément faire une belle crêpe régulière.
Ouais.
Et dans un instant, bien entendu, on va faire aussi une crêpe avec une classique poêle. Car il est possible aussi, évidemment, de faire une crêpe plus ménagère et d'en faire de surcroît de très bonnes.
La première, vous considérez qu'elle est ratée, là? Je peux la manger quand même?
Oui.
Très bien. Et bien, dans un instant, crêpe à la crêpière. Tout le monde est debout. Poussez à fond.
Se désapprivoise. Qu'il est bon de flâner dans une forêt de banderoles, de vitrines cassées et de carcasses.
C'était le titre « Debout » de Barbagallo dans « On va déguster », l'émission gastronomique de France Inter. Rassurez-nous, c'est toujours debout que ça se passe pour faire des crêpes, Catherine.
Toujours debout.
Jamais dans une chaise longue ?
Non.
Dans un canapé ?
Oh là non, c'est un métier difficile.
Physique.
Quand même, hein. Ouais.
Ouais.
Et sinon, Catherine, est-ce que vous connaissiez la recette de crêpes de Raymond Oliver, l'ancien chef du Grand Véfour, à Paris, qui fut d'ailleurs la première toc star de la télévision française.
Oui, un pionnier.
Mais oui, mais enfin, les crêpes, c'est très simple. Enfin, tout le monde sait faire ça.
Oui, mais enfin, on peut les faire plus ou moins bien. On va travailler quelques minutes pour qu'elles soient bien, bien lisses. Elle est bien. Voilà, maintenant, nous allons ajouter le parfum d'anis, n'est-ce pas ?
Oh là là !
Et c'est du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ trois fois plus ou deux fois plus que je n'ai mis d'anis, c'est-à-dire un tiers environ d'anis, deux tiers de rhum.
Et en tout,
ça doit donner un très grand verre à vin, un très grand verre à vin de Bordeaux, c'est-à-dire pas loin d'un quart de litre. Et maintenant, j'obtiens une pâte qui...
Qui est très liquide, déjà.
Non, elle n'est pas encore assez. Elle l'est, évidemment, mais pas tout à fait assez. Alors, je vais la détendre, c'est-à-dire l'allonger, avec de la bière. J'obtiens une pâte relativement claire. Pas tout à fait. Il faut encore mettre un tout petit peu de bière là-dedans.
Ah bon ?
Voilà. Et bien maintenant, nous sommes prêts à faire les crêpes.
Combien de personnes, ça ?
Oh, il y en a pour 4 personnes. À condition d'en manger 24 ou 30 chacune.
Un grand verre à vin de rhum plus de la bière. C'est pas un canular. C'est une vraie recette qui existe, qui vous inspire un petit fou rire quand même.
Oui, quand même. Oui. Bon. Ah oui, le rhum. Moi, j'aime bien de temps en temps mettre un petit peu.
Le rhum, c'est Bretagne sud.
Ouais, ça apporte un bon parfum. C'est vrai que c'est sympa.
J'allais vous poser la question, un petit peu d'alcool, de l'armagnac ou du rhum, mais un bouchon évidemment pas dans les proportions citées par Raymond Oliver.
Un petit bouchon. Après les arômes, on peut retrouver de la fleur d'oranger, de la vanille,
ketchup.
Du ketchup.
Ça ne vous dérange pas.
Moi, j'aime pas trop. Je suis pas trop arôme. Je trouve que la crème, ben, elle a sa saveur et il ne faut pas la gâcher avec des arômes.
Les questions se bousculent sur notre mail, notamment s'agissant du liquide. Est-il possible de remplacer le lait de vache par un lait végétal si l'on veut faire, alors je ne dirais pas une crêpe végane parce qu'il y a les œufs, mais une crêpe un peu plus végétale.
Oui, bien sûr. Le lait d'amande, c'est vraiment un bonheur dans la pâte à crêpes. Hein.
Très bien.
Oh là là, c'est délicieux.
Et on peut remplacer l'intégralité du lait animal par du lait d'amande.
Oui. C'est plus difficile après dans l'étalement si on ne rajoute pas d'autres éléments qui vont faire que la recette va être plus facile à faire. Quoi.
D'accord. Mmh. Certains de nos auditeurs nous signalent qu'ils ajoutent également dans leur pâte à crêpes de la matière grasse, en l'occurrence du beurre fondu.
Oui.
Bonne idée ?
Oh, c'est le meilleur.
Mais vous ne l'avez pas fait ?
Non, je n'ai pas fait, mais je le fais assez souvent. Ça donne vraiment un bon goût. Et puis en plus, ça permet de ne pas rajouter du gras sur la crêpière en plus quand on travaille. Donc c'est vraiment très bon.
Et enfin...
Du demi-sel, bien sûr.
Alors ne relancez pas la question.
Et enfin, certains battent également les blancs d'œufs.
Oui.
C'est possible ?
Oui. Alors, le petit inconvénient quand on met des blancs en neige dans une pâte, c'est qu'on a des crêpes un peu plus cassantes. Donc, il faut rajouter de la matière grasse. Ah. Ou alors un petit peu de blé noir.
D'accord. Et de nombreux auditeurs et auditrices se plaignent en nous disant qu'ils n'ont pas de billig à la maison et qu'ils veulent justement une petite démo de cuisson de crêpes dans une crêpière ou dans une poêle un peu plate. Là, vous avez une crêpière en l'occurrence qui fait un petit diamètre de 25 ou 30
cm. Oui.
C'est possible de faire une crêpe ménagère avec cet instrument.
Absolument.
Eh bien, allons-y.
Allez, on est parti. Donc là, comme pour tout à l'heure avec mon bilic, je mets ma poêle à chauffer à sec. J'attends que la petite fumée arrive. Et quand je la vois arriver, je vais mettre quand même une petite noisette de beurre.
Ah là, beurre.
Allez, on craque. Voilà, je étale avec mon graisseur. Je prends ma louche à la main droite et la poêle à la main gauche. Et je vais déverser ma louche tout en faisant... un cercle avec ma pâte.
Zéro trou.
Tout en tournant en fait le poignet, en faisant un mouvement circulaire.
Donc pas question dans une crêpière d'utiliser ce que vous appelez le roselle, c'est-à-dire ce râteau en bois. La spatule en bois que vous utilisez porte aussi un nom.
Le spanel.
Le spanel.
Oui.
Ça, c'est un nom breton.
Oui.
Et c'est cette espèce de spatule plate qui permet de retourner la crêpe.
Oui.
Vous le maniez avec beaucoup de dextérité.
Ouais.
Parfait, bravo.
Bravo.
Crêpe très réussie, même si vous êtes plus habitué au bilic. Excellente nouvelle. Et puis, pour finaliser cette crêpe de froment, évidemment, on exige plutôt une recette. Suzette.
Madam, I love your crepe Suzette. I think your crepe Suzette is wonderful. But for the moment, let's forget all about your crepe Suzette.
La crêpe Suzette, une invention d'Auguste Escoffier. Connue dans le monde entier, la preuve, le problème avec la crêpe Suzette, c'est qu'il y a peut-être pas autant de recettes que de clochers en Bretagne. Mais en tout cas, il y a plusieurs écoles de la Suzette.
Tout à fait.
Quelle est la vôtre, Catherine?
Alors, moi j'ai revisité un peu le beurre Suzette pour avoir une facilité aussi dans la crêperie pour le proposer à la carte.
Mm-hmm.
Pas le faire comme on l'apprend au CAP cuisine, sur le guéridon, devant le client.
Même si ça a son charme, voilà, ce protocole.
On n'a pas le temps de faire ça en crêperie. Donc je prépare le beurre Suzette qui, bon, à l'origine est orange et avec un petit peu de citron. Je le prépare avec 4 agrumes. Je mets du pamplemousse. Je mets du citron bergamote, je mets du citron vert et de l'orange.
Et quand vous parlez de l'agrume, vous utilisez le zeste?
Alors, je lève les zestes de tous les agrumes.
Uh-huh.
Je vais ensuite presser les agrumes.
Uh-huh.
Je prépare un sirop.
10 centilitres d'eau, 150 grammes de sucre semoule?
C'est ça. Je mets les zestes dedans et je laisse à petit feu, tranquillement, une petite demi-heure. Il faut faire attention de ne pas arriver à la caramélisation. Une demi-heure de cuisson, je vais verser le jus de tous les agrumes et je vais laisser réduire encore une bonne demi-heure, une heure, suivant le feu, hein, comment il est, ça va plus ou moins vite. Et après ça, hors du feu, je vais venir avec le beurre, mes petits morceaux de beurre, je vais émulsionner le beurre dans cet appareil de marmelade là. Il va se conserver 3 semaines.
Quel régal.
Mais que c'est bon.
Il y a de l'amertume, de l'acidité, juste ce qu'il faut de sucre. Franchement, c'est un régal. Un petit commentaire, Dominique?
Ben non, je vous pique ce que vous venez de dire. C'est bien équilibré.
Incroyable. La recette du beurre Suzette, signée Catherine Merdi Goisdoué sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Elvira Masson entre en scène.
On va déguster. Sur France Inter.
Je crois que ce beurre Suzette aurait beaucoup plu à l'auteur du livre dont je vais vous parler.
Ah, et ben j'y pensais, figurez-vous.
Nicolas d'Estiendorf est écrivain et journaliste. Il a longtemps collaboré au Figaro. Entre autres et mille choses, il est passionné de musique classique et d'opéra, art auquel il a consacré une foule d'articles, de critiques et d'essais. Amoureux de sa ville, Paris, il est l'auteur d'un guide de promenade et d'un dictionnaire amoureux qui lui sont consacrés. On le sait aussi gastronome, il le prouve avec ce petit éloge de la gourmandise qui paraît dans quelques jours aux éditions François Bourin. Au fil des pages de ce qui est, selon ces jolis mots, un herbier, une petite arborescence mémorielle qui vogue sur les flots de ses aventures gourmandes, on le découvre finalement en effet plus aventurier et plus gourmand que gastronome. Car ce dernier mot a quelque chose de codifié, de cadré. Il vient du grec gaster, ventre, estomac, et de nomos, loi. La gastronomie est donc littéralement l'art de régler l'estomac. Elle est ainsi la connaissance raisonnée de tout ce qui se rapporte à l'être humain en tant qu'il se nourrit, et que l'on peut restreindre à l'ensemble des règles qui définissent l'art de faire bonne chère. Or, il n'y a pas grande raison chez Nicolas d'Estiendorf. Son plaisir de manger ne répond d'aucun code. Il l'avoue dans l'introduction à son éloge. Je ne connais pas une unique porte d'entrée à ma gourmandise, mais 1000 étroites meurtrières par lesquelles se glissent mes papilles au gré des humeurs et des saisons. Une curiosité donc, un appétit assurément, un vagabondage surtout, qui lui font déclarer sa flamme à l'andouillette autant qu'au bonbon Haribo. Hein?
Il y a quelques petites notes de mauvais goût, c'est ça qui est chouette.
Ce genre, Un refus du politiquement correct, viandard il est et rien ne le fera dévier, un goût pour les plaisirs qu'on pourrait juger un peu dépassé. Je le cite, « Dans un menu de restaurant, je vérifie toujours la présence tripière. Lorsque je découvre miraculeusement un cœur de veau en matelote ou un pressé de langue de mouton, je sais que je n'ai pas perdu ma journée. » On sourit beaucoup à la lecture de ce livre, même et peut-être surtout quand il flirte, vous le disiez François Régis, avec le mauvais goût. Il avoue une certaine faiblesse pour les nuggets sauce barbecue d'une enseigne de fast-food.
Absolument, le clown américain.
Oui, en y trouvant plus d'honnêteté qu'à beaucoup d'autres chaînes qui prétendent à une forme de vertu. On sourit et on s'émeut car toujours traîne en creux cette joie d'être à table ensemble. L'émotion n'est jamais bien loin dans cet éloge, la nostalgie non plus. Je crois que Nicolas d'Estiendor ne s'est jamais complètement remis d'avoir quitté l'enfance, d'ailleurs il ne l'a pas quitté, je crois. Le premier chapitre du livre est un hommage aux cuisinières qui l'ont peuplé, cette enfance de garçon bien né, grandi avec sa mère chez des grands-parents qui n'envisageaient pas le quotidien sans domesticité. Sa grand-mère avait l'art de recruter des perles, elle s'appelait Léone, André, Marguerite, Charlotte, la charentaise qui roule les airs, Marie, la polonaise éthylique. Elles ont scandé son enfance et formé son goût. Alors ça se passait comme ça, les déjeuners un peu corsetés en famille chez lui. Je vous en lis un petit passage.
Avec plaisir.
Un déjeuner réussi n'était pas un Balthazar gourmand, mais un ensemble cohérent, une structure. On ne se grisait pas, on ne s'enivrait guère, on s'empiffrait rarement, mais avec le recul, je comprends que ces déjeuners étaient le dernier avatar d'un monde désormais englouti. Pour retrouver cette ambiance, il me faut voir des films, lire des livres, car les grands dîners parisiens n'ont rien de ce quotidien qui est un poil compassé où l'on oublie qu'on mange des trésors parce qu'ils sont simples et naturels. Les années ont passé, grands-parents et cuisinières dorment sous le marbre, les maisons ont été vendues, les recettes oubliées, les héritages dilapidés. Il ne reste que quelques photos, des menus jaunis, des plats aux saveurs incertaines que je ne parviens pas à retrouver, car ces dames sont mortes avec leurs recettes. Qui me refera le panquet soufflé à l'abricot de Marie, dont la seule évocation donne des fourmis aux papilles? La nostalgie m'ouvre toujours l'appétit. Ben, j'ai cherché pour Nicolas et j'ai trouvé une recette un peu obscure de panquets soufflés. Les panquets,
Catherine, ça vous dit quelque chose ou pas, Catherine?
Ces crêpes qui sont toujours garnies, roulées au bord rabattu comme des petits paquets aux apprêts salés. On les faisait souvent autrefois aux champignons ou sucrés. Oui. C'est assez coton à faire, les panquets. Hein. Oui. Et puis cette recette-là qu'évoque Nicolas, c'est un panquet avec un appareil à souffler à l'intérieur.
Ouais.
Donc c'est un peu long à vous expliquer, mais pour Nicolas d'Estiendor, voilà, son souvenir d'enfance est en ligne.
Et j'ai pris
site.
Moi aussi beaucoup de plaisir à la lecture de ce petit éloge de la gourmandise de Nicolas d'Estiendor. D'abord pour sa plume vraiment sobre et ciselée, pour cette espèce de mélancolie qui se dégage de ses écrits, mais également pour un petit point commun que j'ai avec lui. Alors c'est pas l'amour de McDonald's, mais c'est plutôt son amour du bistrot Marcel.
Ah oui.
À Paris, vous savez, repris par Pierre Schoeckle. Il en écrit d'ailleurs: si l'on vient chez Marcel, c'est bien sûr pour son carpaccio de cochon, son very good trip, sa quenelle et son andouillette, mais c'est aussi pour lui, Pierre, taulier flamboyant, docteur S apéritif improbable, grand maître du digestif oublié, à l'heure des adresses surfaites et des talents frelatés, chez Marcel porte haut l'étendard du beau, du bon, du vrai, comme une pure tranche d'amitié. Voilà, et c'est effectivement une très belle adresse au 7 de la rue Stanislas, rive gauche, à Paris.
Adresse géniale, oui.
Petit éloge de la gourmandise aux éditions François Bourin, signé Nicolas d'Estiendor. Merci beaucoup, Elvira. Catherine,
oui.
On arrive à la fin de cette émission. Un tout petit mot sur la galette de sarrasin, évidemment, puisque des auditeurs nous réclament une recette de galette de sarrasin. Notre objectif, c'était vraiment de faire le tour de la crêpe sucrée.
Oui.
La galette de sarrasin, parfois il y a des œufs, parfois il n'y en a pas. Parfois, c'est uniquement de la farine de sarrasin et de l'eau.
Oui, à la base, oui, comme on dit, on peut faire des crêpes de blé noir avec de la farine
blé noir, pardon. Blé noir synonyme de sarrasin.
Voilà. Avant tout, il faut une bonne farine de blé noir. Ça, c'est super important. On a une bonne farine, on a une bonne crêpe.
Bretonne, française,
ouais.
De préférence biologique.
Oui, voilà, de préférence. Alors, y mettre un œuf, on apporte du liant, parce que dans le blé noir, dans le sarrasin, il n'y a pas de gluten. Donc, c'est un peu difficile de faire des crêpes sans ajouter un liant quelconque. Donc, un œuf, en général, effectivement, un œuf au kilo de farine, c'est suffisant.
Mm-hmm.
Sur 500 grammes, on met un œuf aussi. Enfin, on prend un petit calibre, éventuellement. Du gros sel de mer, de Guérande.
Mm-hmm.
15 grammes pour 500 grammes de farine, quand même, de gros sel. Un petit peu de poivre, parce que bon, on assaisonne, hein, voilà. Et ce que j'aime bien, c'est mettre une petite pointe de miel.
Ah, pour contrebalancer l'amertume du sarrasin.
Voilà, c'est ça. Pour un petit peu l'amertume, l'acidité du sarrasin, mais aussi pour la coloration de la crêpe. Hein. Pour activer une fermentation aussi, c'est sympa. Et puis pour l'adjuvant du goût, en fait, hein, le petit côté sucre, comme le petit côté sel qu'on peut mettre dans le sucré également. Donc voilà. Et j'aime bien aussi mettre une petite pointe d'huile de noisette. Parce que ça donne, l'huile de sésame marche très bien avec le blé noir aussi. Ça apporte les protéines, ça apporte le gras. Donc c'est intéressant aussi avec le blé noir. Voilà.
Ouais. Et la crêpe de sarrasin ou la galette peut se pratiquer sur le bilig comme aussi, sur la crêpière.
Pareil, aussi bien. Faut faire attention de ne pas la retourner trop tôt parce que qu'elle cuit beaucoup plus longtemps que le froment.
Absolument.
Et c'est souvent comme ça qu'on la craque, on la retourne trop tôt.
Votre recette de pâte à galette à la farine de sarrasin sur franceinter.fr à la page On va déguster, ainsi d'ailleurs que ce kouign-amann surprenant, on va se régaler avec, fait avec pour le coup des crêpes de froment.
Des crêpes, du sucre, du beurre. Des
bravo,
du
et beurre, tout du le sucre. Reste de vos astuces, de vos recettes, ça figure dans Les crêpes, l'art et la manière, de Catherine Merdi-Gouazdoué, qui est un ouvrage indispensable pour tous les amateurs de crêpes. Dominique, vous vouliez juste ajouter une chose?
Oui, on a oublié de citer le lien tout à l'heure. Dans votre moteur de recherche, vous tapez Cidre Cotentin, vieillissement prolongé, ou au pire, sur notre page à nous, On va déguster. Vous aurez le lien tout près.
Absolument, pour tenter l'expérience des cidres de garde. La semaine prochaine, on déterre, on cueille et on cuisine des légumes étonnants. Petite courge, légumes multicolores, poires de terre. On ouvre une espèce de cabinet de curiosité végétale avec notre pote du potager Xavier Mathias et la chef Louise Jacob. Zazie Tavitian et Arnaud Daguin seront dans les fauteuils des chroniqueurs. Merci beaucoup Catherine.
Merci à vous.
Merci Dominique. Beaucoup. Merci Elvira. À la prochaine.
À bientôt.
À dimanche prochain. Si vous avez encore faim.